discuter avec l'exposé de Yves Chevalard, que je vais, je ne vais pas introduire l'exposé d'Yves Chevalard, mais plutôt l'intérêt à mes yeux de cette journée de réflexion à partir de la didactique des maths, mais pas seulement autour de la didactique des maths. Alors d'abord, je voudrais dire qu'on est en 2008, et que donc il y a 40 ans, c'était 1968, non pas... 40 ans, c'est une génération, voilà, hein, c'est la traversée du désert, je ne sais pas si c'est l'arrivée en terre promise, mais en tout cas, c'est le passage de position des fondatrices, puisque aujourd'hui, c'est la création des premiers IREM, et aussi, à mes yeux, un autre élément important, c'est que c'est la première génération qui sort de l'école obligatoire à 16 ans, par la loi de 59, les CP entrés en septembre 1959 dans le système scolaire, pour eux, la scolarisation était obligatoire jusqu'à 16 ans, et donc l'enseignement secondaire, ce qui modifie considérablement la suite d'organisation du système éducatif. Et les didactiques naissent dans ce contexte de rénovation des enseignements, de réforme de l'institution du système scolaire. Et en 1967, Gérard Vergniaud, dans un texte de la Revue française de pédagogie, écrit « La didactique n'est réductible ni à la connaissance d'une discipline, ni à la psychologie, ni à la pédagogie, ni à l'histoire, ni à l'épistémologie. Elle suppose tout cela. » Alors, on ne sait pas si ça veut dire « elle suppose que le didacticien sait tout cela dans sa tête hein, », parce que c'est beaucoup pour... un seul homme. Elle suppose tout cela, mais elle ne s'y réduit pas. Elle a son identité, ses problèmes, ses méthodes. Et il définit la didactique en général, même si son propos concerne plus précisément la didactique des mathématiques. Et en l'année suivante, en 1979, Guy Brousseau écrit un article resté aussi fondateur dans le bulletin Inter IREM de Lyon, l'étude des processus d'apprentissage en situation scolaire, qui cible clairement l'analyse du travail didactique sur la classe. Et dans le même numéro, Yves Chevalard écrit « Les IREM s'interrogent, l'entrée dans la vie ». Voilà. Donc on est 10 ans après la création des premiers IREM, et il explicite la théorie des deux ruptures, que je résume brièvement, puisque la première rupture se place... c'est de placer la didactique sur les positions d'épistémologie et l'épistémologie scientifique, et sont cités Bachelard, Cavaillès, Coiré et Foucault. Mais l'important est la deuxième rupture, qui c'est s'autoriser à une seconde rupture, qui consiste, je cite, à mettre au premier plan, pour l'élaboration théorique visée, la place, les fonctions, le sens épistémologique de l'observation des activités didactiques, ce qui est le fondement, non la totalité, certes, de l'activité de recherche. Ce rôle renouvelé de l'observation est permis par ailleurs par l'extension considérable des instruments méthodologiques de la recherche, et Yves Chevalard cite les statistiques, l'analyse de données, et aussi des instruments de recherche, des instruments théoriques de recherche, notamment l'épistémologie, l'histoire des maths, la psychologie cognitive, et je trouve intéressant que ces trois domaines scientifiques soient cités comme des instruments théoriques de recherche, pour la didactique. Alors ça, c'est, je dirais, l'aspect de fondation scientifique d'une ambition de la didactique des maths, mais pas seulement des maths, puisqu'on l'a trouvé déjà formulé d'une autre manière dans la première des lignées didactiques qui s'est constituée avant la didactique des maths et qui était la didactique de l'enseignement des langues, qui ont constitué les premières didactologies et qui datent des années 50-60, même si elles n'ont pas eu la reconnaissance institutionnelle qui a pu constituer les IREM pour la didactique des maths. Et j'en veux pour preuve un petit peu la manière dont est définie la didactique dans le livre qui fait le poids sur recherche en didactique et acquisition du français langue maternelle, dirigé par Gagné, Lazur, François Chalrol et Françoise Ropé de l'INRP, qui est paru à deux boucs. Là, c'est en 89, et qui définit la didactique du français langue maternelle comme étant une discipline qui est à l'intersection de plusieurs champs. Un champ qui est celui de l'enseignement-apprentissage, et qui suppose toutes les sciences de l'éducation, la psychologie, la sociologie, l'histoire, etc. Et un champ qui est celui des contenus disciplinaires, et mais là où on attendrait contenus disciplinaires pour la didactique de langue maternelle, je ne sais pas, la lecture, l'orthographe, la grammaire, la littérature, enfin bon, ce qui fait l'objet des contenus, ce qui est donné, ce sont les sciences du langage, les sciences de la communication, les théories de la littérature, c'est-à-dire non pas les contenus enseignés aux élèves, mais les théories qui sont supposées fonder ces contenus. On est donc dans une perspective, je dirais, théoriciste extraordinairement forte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, pendant ces 30 années, donc depuis 78, cette fois non plus 68, mais 10 ans plus tard, des mutations institutionnelles très fortes, puisqu'on est passé effectivement il y a eu la création du Collège unique, 64, et on est arrivé au socle commun, qui est la définition d'un savoir lire, écrire et compter pour l'enseignement obligatoire du collège, je dirais, avec les programmes de 2006, et qui est défini comme un programme de compétences et connaissances. On est justement donc passé de programmes élaborés en termes très disciplinaires à des élaborations, alors dont on ne sait pas si elles sont substitutives ou complémentaires, qui sont celles de curriculum de compétences, en alignant d'une certaine manière l'exception française, qui est toujours celle des programmes de contenu, sur des modalités internationales, disons de référence largement anglo-saxonne, sur la formulation de compétences. On est passé de modalités d'évaluation uniquement à travers les évaluations individuelles des maîtres par les inspections et des élèves par les examens ou concours à des dispositifs d'évaluation internationale extrêmement forts qui, avec PISA, PIRLS, TIMSS et toute une série d'autres évaluations nationales qui ont modifié notre perception ordinaire de ce que c'est que l'attendu, l'exigible des résultats scolaires en termes de compétences du système et pas simplement de compétences des élèves. Et il y a eu la création des UFM qui a unifié dans un même lieu institutionnel, sinon dans un même lieu géographique, les formations premier et second degré. Et on assiste à l'évolution jamais finale, mais récente du dispositif avec l'intégration des UFM institutions autonomes aux universités où elles seront des institutions. Alors, et des écoles intégrées, on ne sait pas encore comment. Et la question, je dirais, de l'efficacité de l'enseignement et donc de la responsabilité des formateurs en matière de formation qui était posée déjà politiquement dans les années 68-70, se pose aujourd'hui dans des termes beaucoup plus technicistes, mais se pose de manière plus forte. Entre-temps, que sont devenues les didactiques? Je dirais qu'elles ont connu des développements inégaux. Autant dans les années 80, tout le monde était prêt à prédire qu'il y allait avoir une didactisation généralisée de toutes les disciplines, autant 40 ans après leur émergence, on peut dire que le paysage est demeuré extraordinairement contrasté. Et par exemple, on peut dire qu'aucun texte officiel en histoire et en géographie n'emploie le terme didactique, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres domaines. Il n'y a pas de didactique de la littérature, à ma connaissance, alors que les professeurs de lettres sont toujours chargés de cet enseignement dans le second degré. Il y a des lieux où, au contraire, la didactique a conquis sa visibilité institutionnelle, y compris, par exemple, dans les commissions CNU. Ça serait une chose intéressante de voir comment il y a eu ou pas institutionnalisation de ces domaines. Et je terminerai sur quelques comparaisons internationales qui pour moi font question. C'est-à-dire qu'il me semble, pour le peu d'expérience internationale que je peux avoir en pays en Amérique du Nord ou en Amérique latine, que la didactique demeure un produit extrêmement français dans son mode de production intellectuelle et d'institutionnalisation. Dans sa visibilité institutionnelle, disons. Même s'il y a des travaux dont on dirait qu'ils sont également didactiques dans ces autres pays, leur modalité d'explicitation n'est pas forcément la même. En revanche, il y a énormément d'empreintes concepts Alors, je donne comme exemple pour l'Amérique latine en particulier, aussi bien espagnole que portugaise. C'est sûr que, par exemple, les trois concepts qui ont été largement empruntés ou nébuleuses conceptuelles, parce que ce n'est pas toujours... c'est certainement les concepts bourdieusiens de la sociologie, de la reproduction et de l'héritage socioculturel, ça on les trouve absolument partout. C'est certainement celui de la transposition didactique, qu'on trouve absolument partout également. Et celui du rapport au savoir, je dirais la troisième génération Gauthier-Rochex. Alors, je dirais ces trois concepts étant utilisés à temps et contre temps, et pour le meilleur et pour le pire, les auteurs de ces concepts n'étant pas toujours responsables des mésusages qui peuvent avoir été faits de leurs outillages intellectuels. Mais là, c'est intéressant de voir que ces importations conceptuelles n'ont pas pour autant structurer les champs de recherche de la même manière que les champs français. Donc je pense particulièrement intéressant de revenir sur, alors, en donnant la parole à Yves Chevalard ce matin et à d'autres intervenants cet après-midi autour de son travail de ces années, sur ce qui a été le destin, les avatars, les réussites, les échecs, les interrogations, les promesses tenues et non tenues autour de la didactique en France, et en particulier en partant de celle qui a été certainement la plus structurée institutionnellement, sinon la, et probablement la plus célèbre internationalement, donc qui a été la didactique des mains. Donc, parole à Yves Chevalard pour la suite.